6h-8h.
Matin première.
Medical Fat.
Il est 7h10, voici le parti pris de Alain Gerlache, journaliste. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et de François Gemène, professeur à l'ULG et à Sciences Po Paris. Bonjour François.
Bonjour Mehdi, bonjour à tous.
Et nous commençons par la tempête qui agite la Flandre depuis la diffusion d'un reportage.
Cabinet de reportage Rusine,
je n'ai pas vu le reportage, mais je trouve ça très choquant et je suis très clair. Je condamne toute forme de racisme et d'extrémisme. Il n'y a pas de place dans notre société pour ce type d'attitude.
Le Premier ministre qui réagit à la diffusion d'un reportage de panneaux de la VRT qui révèle les dérives du groupe de jeunes d'extrême droite Skilt en Vrienden. Racisme, sexisme, antisémitisme, islamophobie au programme de ces jeunes membres. Alors après le choc, cette question messieurs, peut-être on va commencer par vous Alain, pourquoi ces jeunes sont-ils attirés par ce mouvement d'extrême droite ?
Ça fait partie d'un mouvement à la fois très ancien et aussi très très nouveau. C'est une tradition des mouvements flamands d'ultra-droite. Le VMO, ce groupement qui organisait notamment des camps d'entraînement militaire dans les Ardennes dans les années 80, Vourpost, le TAC, Werudi, etc. Ça fait aussi partie de cette montée des mouvements identitaires en Europe. Ce qui change et qui justement correspond à cette nouvelle génération, c'est la manière dont le groupe s'est constitué. C'est pas comme un parti qui dit on va communiquer sur Facebook. Il émane des réseaux sociaux. Ça commence par un groupe public qui échange des mèmes, ces petites photos ou vidéos avec des incrustations théoriquement amusantes. Et puis ça devient un groupe fermé quand ça devient trop sérieux et quand ça se structure. Et enfin, ça aboutit dans des réseaux plus confidentiels comme Discord, qui est un réseau qui est utilisé par les gamers. Donc on voit que ça part vraiment des réseaux sociaux, ça se structure comme ça, et c'est à partir de cela que ça devient vraiment un mouvement finalement extrêmement bien organisé, avec une double face, une face droite conservatrice qui lui donne accès
bon chic, bon
aux médias. Moi, la première fois que j'ai vu Dries Van Langenhoven, c'était à Terzac, à la VRT, dans un débat sur les transgenres. Et puis alors, il y a la face cachée, raciste, sexiste, antisémite, qui développe le culte du corps et qui s'initie aux armes. On pourrait dire que ce sont un peu les SA 2.0.
Quoi, les sections d'assaut
Si vous regardez,
donc les ancêtres des SS d'Hitler, c'est ça que vous dites.
On y va, absolument.
François Gemène.
Je dirais que ce qu'il y a de très inquiétant là-dedans, effectivement, c'est qu'il y a cette idée, cette fois-ci, que le but de ces réseaux, c'est vraiment de prendre le pouvoir. Quand on regarde ce qu'ils écrivent, l'idée, c'est de placer leurs gens à des postes clés. Et Dries Van Langenhove avait réussi à se faire élire au conseil d'administration de l'université de Gand en tant que représentant des étudiants. Et donc l'idée, c'est peu à peu de transformer la société en pratiquant une logique d'entrisme et en plaçant un peu ses pions à tous les étages de la société. Et je dirais qu'ils sont aussi quelque part galvanisés un peu par les succès électoraux. Tous les groupes que tu as cités, Alain, étaient des groupes qui étaient un peu en marge finalement de la société et qui savaient bien quelque part qu'ils ne prendraient jamais véritablement le pouvoir. Ici, il faut le dire, c'est un groupe qui est galvanisé par le succès électoral de la NVA et qui donc se dit, si nous jouons notre jeu finement, nous allons prendre le pouvoir et nous allons infiltrer ces partis. Et la NVA est bien entendu plus perméable qu'un autre parti à cela.
Je crois en effet que le problème, c'est la porosité qui fait que ces gens passent de l'un à l'autre et la porosité des idées. Et là, il faut évidemment que la NVA sorte de l'ambiguïté. Théo Franken dit « Je condamne, ce n'est pas ma Flandre », mais au début de son mandat de ministre ou de secrétaire d'État, il célèbre un collaborateur qui est un ancien du VMO et qui est exactement sur la même ligne idéologique. Il dit « Ce ne sont pas mes valeurs », mais il y a quelques jours, il s'en prend à ces hommes qui expriment leur part de féminité, ce qui le met exactement dans le même camp que Skilt en Vrienden, qui célèbre le corps de l'homme blanc d'une manière qui rappelle la propagande nazie.
Il est clair que Théo Franken représente pour eux l'objectif à atteindre. Si un type comme Théo Franken, qui, soyons clairs, partage un certain nombre de leurs idées, notamment masculinistes, notamment racistes, arrive à une position de ministre, ils se disent, nous pouvons y arriver, nous pouvons prendre le pouvoir.
Mais en même temps, le fait qu'ils existent montre bien qu'ils ne sont pas totalement satisfaits de l'offre des partis actuels. Le comble de l'ambiguïté, c'est Bart De Wever qui dit, on va opkeusen, nettoyer la NVA, et qui réutilise volontairement ou inconsciemment le même mot qui avait été utilisé par Théo Franken en parlant du parc Maximilien.
Théo Franken, qui aura l'occasion d'exprimer le fond de sa pensée tout à l'heure, puisqu'il sera l'invité de Matin Première, interrogé par Thomas Galisseux aux alentours de 7h45. Et figurez-vous que le racisme, c'est pas une exclusivité flamande, que du contraire.
Je voudrais d'abord vous faire part de mon indignation, de notre indignation, de toute l'équipe météo, face aux propos racistes dont Cécile, notre collègue Cécile Junga, est victime régulièrement. C'est tout à fait intolérable.
Avec une NVA qui parle des Arabes ceci, des Berbères cela, des Juifs là-bas, des Asiatiques ceci, on a banalisé la parole raciste.
Alors dans le deuxième débat, on parle évidemment de l'affaire Junga, vous l'aurez compris, victime de racisme au quotidien dans son boulot de présentatrice météo à la RTBF. Et vous avez entendu l'indignation de sa collègue, Caroline Dawson, de Paul Magnette, toute la classe politique y va de son mot. La une du soir est toute noire ce matin. Alors messieurs, au-delà de l'indignation, qu'est-ce qu'on fait maintenant, François Gemène ?
C'est vrai qu'on peut avoir l'impression aujourd'hui qu'un like sous la vidéo tient lieu d'indignation et qu'on a fait son boulot une fois qu'on a cliqué. Je dirais que le vrai problème, c'est d'abord de traiter la question à la base. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que ces propos racistes qui sont présents dans la société et que la vidéo révèle, c'est que ces propos sont légitimés quelque part par une suite de dérapages politiques à répétition qui, quelque part, engendre ce mécanisme de la haine ordinaire, engendre cet engrenage et quelque part légitime ce propos raciste. On se dit, si tel politique a dit ça à la radio dans Matin Première, ça veut dire que quelque part, moi je suis autorisé à dire aussi cela. Et on a un vrai problème au-delà des négations, c'est que ces délits ne sont jamais poursuivis. La Belgique a pourtant été aux avant-postes en la matière avec la loi Moureau de 1981 déjà qui punit ce type de délit. Et le problème, c'est qu'ils ne sont jamais poursuivis. Jamais poursuivis. Pourquoi ? D'abord parce que les victimes portent très rarement plainte et c'est là où les personnalités publiques, je pense, ont un devoir de porter plainte. Évidemment, ce qui arrive à Cécile Junga est dramatique, mais quelque part, pensons à toutes les autres femmes noires qui n'ont pas son exposition, qui n'ont pas le soutien des téléspectateurs ou de leur entreprise et qui subissent ces violences. Et donc, je pense qu'elle a un devoir, et la RTBF aussi, de porter plainte et de poursuivre l'affaire. Et puis, je pense qu'il faut prendre aussi une mesure radicale, c'est-à-dire nommer un procureur spécial en charge de ces questions. Ces délits ne sont jamais poursuivis simplement parce qu'ils sont classés sans suite, parce que la justice a d'autres choix à fouetter. Il faut aujourd'hui qu'on poursuive ces délits et que l'impunité, que ce sentiment d'impunité cesse absolument.
Alain Gerlache. Oui, je partage ce que dit François. Hein. Aujourd'hui, et c'est notamment à cause, il faut bien le dire, des réseaux sociaux, mais pas seulement, tout est devenu une opinion et ressort de la liberté d'expression. On est peut-être un peu victime aussi de cette conception très large américaine, hein, il faut bien le dire, qui maintenant détermine ce qui fait partie de la liberté d'expression. C'est validé par certains discours politiques et il faudra évidemment réprimer les choses. Il faut aussi que tout le monde se remette en cause, y compris les médias. On a vu l'importance des médias pour présenter la réalité de ce mouvement flamand dont on vient de parler. Hein. C'est quand même les médias, des journalistes professionnels payés pour leur travail qui ont produit cela. Mais en même temps, on voit aussi, toujours maintenant, sur les pages de commentaires des journaux, toute une série de propos qui sont aussi des propos à peine voilés et condamnables. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à publier ces commentaires ? Est-ce que les médias ne devraient pas dire, ce n'est pas notre boulot de faire état de toutes ces paroles haineuses et frustrées ?
Moi, je pense très clairement, je pense qu'il faut supprimer les commentaires sous les articles des journaux, point.
Sachez que le reportage panneau de la VRT sera diffusé et traduit en français, bien sûr, mercredi soir dans Question à la Une, en télé, donc sur la RTBF. Allez, un petit clin d'œil pour terminer. Vous aimez le café, messieurs ?
Surtout à 7h du matin, oui.
Ouais. Moi, je ne suis pas très fan des boissons non alcoolisées, donc j'en bois assez peu.
Figurez-vous qu'en Italie, Starbucks décide d'envahir ce marché très compliqué, le pays de l'espresso. Qu'est-ce que vous en pensez, en quelques mots ?
Mais écoutez, j'ai envie de dire qu'on ne sort pas vraiment du sujet. Parce que, quelque part, c'est un peu la fin des identités. Partout où on va maintenant, on voit les mêmes enseignes de restaurants.